Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant, soyez les bienvenus pour votre podcast consacré à la Formule 1. Il faisait chaud à Barcelone où a eu lieu le 6e Grand Prix de la saison et on a eu le droit à de très nombreux rebondissements. On est là pour en parler avec Stéphane Vrignot. Voilà Stéphane, qu'est-ce que
t'as ? Ben écoute, très bien, en forme.
Max hausse le ton, une sortie de piste en début de course, un DRS récalcitrant et pourtant à la fin c'est Verstappen qui gagne, le champion du monde s'est imposé pour la 4e fois déjà cette saison, il s'installe en tête du classement des pilotes. La réussite était clairement avec le Néerlandais. La réussite, elle a fui Charles Leclerc, confortablement installé en tête en Catalogne mais trahi par son moteur. Pendant que Sainz visitait lui les bas-côtés du circuit catalan, un remake biblique chez Ferrari avec les deux plaies d'Espagne pour la Scuderia. Et pendant ce temps, Mercedes relève la tête et George Russell montre l'écrou, le jeune Britannique qui a mené quelques tours. Il monte sur le podium et fixe le cap pendant que son coéquipier demande l'autorisation d'abandonner avant de remonter dans le peloton. On évoquera donc le cas de l'équipe Mercedes. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant aujourd'hui avec Max Verstappen qui a haussé le ton en Espagne. Il a remporté ce Grand Prix le week-end dernier, signant au passage sa 4e victoire cette saison, ce qui l'installe en tête au classement des pilotes. Et avec la 2e place de son coéquipier, Sergio Pérez, Red Bull a également pris possession du classement des constructeurs. Alors dit comme ça, on pourrait imaginer que la 6e épreuve de la saison a été un long fleuve tranquille. Pourtant, il y a bel et bien eu deux salles, deux ambiances, hein, chez Max Verstappen sur le circuit de Montmelo. Un début de course dominé par son rival, Charles Leclerc. Un DRS qui ne fonctionne pas bien. Une sortie de piste au 9e tour. La remontée qui donc est ralentie par ce problème de DRS. On l'a entendu s'énerver à la radio. On se serait cru revenu quelques saisons en arrière. Hein. On avait dit qu'il avait beaucoup mûri, qu'il était beaucoup plus calme. Alors là, il y a eu des échanges radio quand même assez salés.
Oui, Gilles. Alors, chez Max Verstappen, les victoires comptent autant que les défaites. Et Max Verstappen a de la mémoire. Et l'année dernière, il s'était fait battre par Lewis Hamilton qui avait rajouté un arrêt à son plan de course pour revenir en force et le battre. Et bien là, il a fait la même chose pour l'emporter puisqu'il était énervé. Il ne tenait pas derrière Russell. Et tu noteras aussi, Gilles, qu'on peut avoir un beau Grand Prix d'Espagne aussi sans safety car.
Non,
donc voilà, ça devient un peu une religion en Formule 1. On est un peu les tenants de la vieille école, mais on est très content d'être comme ça. Et comme quoi, bah écoute, ça peut aussi marcher. Alors plus il y a d'arrêt au stand, plus ça mixe le peloton et plus on assiste à des retours en force. Et Verstappen en a profité parce que ça avait mal commencé pour lui, effectivement. Alors c'est assez marrant parce que sur le coup de la sortie de piste, tout de suite, il y a Christian Horner qui était branché, je pense, avec Madame Soleil ou Monsieur Météo. Et là, il dit, ah oui, il y a eu un coup de vent, en fait, t'as eu un coup de vent dans le dos. Alors, je sais pas comment est-ce qu'ils le voient, eux. Et Helmut Marko, en fin de course, a dit, oui, effectivement, il y a eu deux bourrasques. Et les deux bourrasques, en fait, c'était pour la sortie de piste de Leclerc, de Sainz au 7e tour et celle de Verstappen au 9e tour. Alors, on avait une explication, en fait, clé en main à Verstappen l'excuser en fait de cette sortie de piste. Et les bacs à sable sont un petit peu aussi comme on les aime, ils sont punitifs mais pas trop, on peut en sortir, c'est pas mal.
Exactement. Alors il y a eu ce début de course vraiment très très compliqué et on l'a senti vraiment survolter Max Verstappen. Et puis il y a eu cette réussite du champion, on en a beaucoup parlé à propos de Lewis Hamilton. Bah, maintenant, elle est dans le camp de Max Verstappen, le moteur de la Ferrari de Charles Leclerc qui s'étrangle. La docilité aussi de son coéquipier à Max Verstappen, hein, Sergio Pérez, qui lui a ouvert la porte finalement deux fois pour avoir une voie royale vers la victoire. On avait la semaine dernière employé dans Les Fous du Volant, Stéphane, le mot inéluctable. En parlant de la progression de Max Verstappen et son retour sur Charles Leclerc, ben ça s'est vérifié. Il y avait un sentiment d'inéluctabilité. C'est pas facile à dire.
Hein. On l'a pas répété.
D'inéluctabilité sur ce Grand Prix et sur la tendance qu'on avait vue déjà depuis l'Émilie-Romagne.
Ouais, il était plus fort que tout. Problème de DRS en Q3, ce qui le prive en fait d'une dernière tentative contre Leclerc pour essayer de prendre la pole position. Red Bull fait des réparations dans le parc fermé parce qu'il y a un élément défaillant, donc ça, ils ont le droit. Et ça se reproduit en course. Et Helmut Marko a dit un truc un peu bizarre. Il a dit on a eu ça que sur la voiture de Verstappen, donc il n'est pas exactement maudit. Il a dit on aurait eu ça sur Pérez s'il avait exactement la même voiture. Et Verstappen courait en Espagne avec une voiture un peu plus légère que celle de Pérez. Il a dit c'est pour ça que Pérez n'a pas rencontré ce problème. Il a un peu l'ancienne version. Bon, il y a quelque chose quand même qui m'a paru un petit peu bizarre, c'est que Verstappen s'énervait, il a un petit peu perdu son self-control puisqu'il appuyait plusieurs fois sur ce satané bouton.
On l'imagine, tu sais, bam, 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 bam.
Et alors que les pilotes vraiment connaissent les procédures et sont disciplinés parce qu'ils savent que c'est dans leur intérêt. Et son ingénieur de course, Giampiero Lambiasi, l'a appelé plusieurs fois en disant « Max n'appuie qu'une fois après être passé sur la bordure du dernier virage ». C'est un peu curieux comme ça, c'est comme s'il avait un petit peu oublié les consignes et qu'il était un petit peu omnubilé par cette voiture, par Russell, qui devant lui en fait faisait du Verstappen, qui lui résistait, qui lui claquait des portes à tour de bras.
Ouais, c'est clair. Alors, on l'a évoqué hein, depuis le début de la saison, que cette Red Bull, c'est vraiment une lame de rasoir, quoi. On la sent hyper efficace, mais alors elle est capable de se retourner contre vous vraiment en un dixième de seconde, et c'est ce qui lui est arrivé sur ce neuvième tour. Et cette sortie de piste, ça a obligé donc l'équipe Red Bull à revoir complètement ses plans et finalement même à inverser les plans de course de Sergio Pérez et de Max Verstappen, Stéphane. C'est fort ce qu'ils ont fait stratégiquement quand même.
Alors je pense qu'en fait, ils étaient tous les deux sur deux arrêts et puis Verstappen a décidé d'en rajouter un troisième. Le premier relais de Pérez est un petit peu plus long, peut-être pour essayer de marquer Leclerc, pour profiter d'une safety car de façon à avoir un arrêt entre guillemets gratuit et de rester au contact de Leclerc ou de rester menaçant. Mais c'est vrai qu'ils sont passés à autre chose. Et ce qui est marrant encore, c'est que Pérez a dit à la fin, bon, bah, on avait deux stratégies, mais j'avais la mauvaise. Alors, on a entendu ça de nombreuses fois chez Bottas, ces derniers temps aussi chez Sainz, chez Ferrari. Donc là, on se dit, bon, ben voilà, il y a encore un numéro 1, un numéro 2. On l'a vu une fois de plus, on l'a vu à tous les niveaux, en fait. Alors, autant la première fois…
Là, c'était dur.
Quand ils m'ont demandé, voilà, parce qu'il était en pleine bourre, quand ils m'ont demandé de céder le passage à Verstappen, c'est un petit peu cruel. La deuxième fois, on savait que c'était inéluctable. Il a un petit peu protesté, pas trop. Marco a dit, voilà, bah, s'il n'était pas pilote de course, il n'aurait pas protesté. À la fin, il a dit, il va falloir qu'on en discute, mais je pense que la discussion n'a pas tellement duré. Surtout qu'il a un contrat là en négociation. Les négociations sont ouvertes.
C'est ça.
Et je pense qu'ils préparent juste, ils vont juste choisir maintenant le moment pour l'annoncer.
Il a quand même dit à la radio un moment, c'est pas très sympa. Voilà, oui. Parce que bon, là, il y a eu un moment où il a eu le sentiment d'être un petit peu sacrifié sur l'autel du Néerlandais, et on peut le comprendre. En tout cas, chez Red Bull, ça turbine, hein, Stéphane. D'abord, si on fait un point mathématique du côté de Verstappen, il avait 46 points de retard après l'Australie par rapport à Charles Leclerc. Il a quitté la Catalogne avec 6 points d'avance. Le delta est colossal.
C'est monstrueux. Red Bull a marqué 140 points sur 147 possibles sur les trois derniers Grands Prix. 95% des points scorés. Enfin, c'est presque 1 sur 2 à chaque fois. Plus le meilleur tour en course. Qu'ils prennent à chaque fois le point bonus du meilleur tour en course, alors que la Ferrari avait pris les trois premiers.
Oui.
C'est des petits indices aussi qui indiquent que la Red Bull.
C'est devenu la meilleure voiture en course maintenant.
Alors, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Peut-être que Leclerc auraient pris ce point-là. Mais en tous les cas, ils prennent à peu près tout ce qu'ils peuvent en ce moment. Et les deltas sont juste gigantesques au championnat. Et effectivement, les tendances depuis trois Grands Prix sont quand même nettes. Puisqu'en fait, on voit sur le classement des pilotes, sur les six dernières courses, Verstappen a pris donc 19, 8 et 25 points. Et il a cédé à Leclerc en deux occasions, à l'occasion de ses abandons. Autrement, on voit que quand il a la voie libre, quand le matériel marche bien, il n'y a pas match, tout simplement.
Quand tu dis 19, 8 et 25 points, c'est de plus que Leclerc. Hein.
Voilà, c'est voilà. Ça. C'est les points qu'il lui a pris en plus. Donc, ça revient au total de points que tu évoquais. Et puis, du côté des constructeurs, c'est la même chose. C'est la tendance, là, elle est nette. Plus 38 points quand même pris à Imola. 58 points sur 59 possibles. Maintenant, c'est ça. Il y a des super grands prix, on va dire, hein, qu'il ne faut pas rater. Et Red Bull était là. Il y en aura deux autres cette saison. Il faudra peut-être que Ferrari donne le change là-dessus. À Miami, ils étaient largement en avance. Et puis là, ils prennent encore 32 points de plus.
Non, c'est clair.
Donc là, on a l'impression qu'ils sont dans deux divisions d'écart.
Sur ces trois derniers Grands Prix, il y a eu quand même 140 points d'engrangés pour Red Bull. 65 seulement, moins de la moitié pour Ferrari. Et on a vraiment le sentiment. Alors effectivement, comme tu le disais, on n'aura pas le fin mot de l'histoire. Est-ce que Leclerc était en mode contrôle au devant de la course, mais on avait quand même le sentiment que la Red Bull était extrêmement efficace. Je ne veux pas dire la plus efficace parce qu'on ne pourra pas savoir, en fait. Le suspense va perdurer avec cet abandon de Charles Leclerc. Mais alors, elle était d'une économie sur ses pneus assez redoutable. Hein. On a vu ce que Sergio Pérez a été capable de faire pour aller chercher donc ce deuxième doublé Red Bull sur les trois derniers Grands Prix. J'ai envie de dire, après le retard à l'allumage qu'il y avait eu, parce que Red Bull a continué de travailler très très tard en 2021 jusqu'au bout pour le titre, alors que Ferrari était déjà passé au dossier 2022, ça y est, ce retard il est effacé et on a même le sentiment qu'ils ont même de l'avance maintenant. La Ferrari est plus rapide sur un tour, peut-être, mais en version course, on a quand même le sentiment que sur les longs relais, la Red Bull a pris le dessus.
Alors je dirais que ça aussi c'est parce que Verstappen est resté aussi dans l'esprit du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, c'est-à-dire je ne subis pas, je suis proactif, je tente des options décalées, des choses comme ça, ça donne des plans de course qui se rouvrent d'un seul coup pour lui, et c'est vraiment, je trouve, dans son tempérament d'aller chercher ces victoires-là. Et puis, il est en lévitation à la fin. Ouais. Il salue la foule dans le dernier secteur avant de franchir la ligne d'arrivée.
C'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude de voir ce genre de choses. Mais c'est sympa.
Non, mais ça, on ne le voit jamais, non. Tout simplement, jamais, parce que tu ne peux pas te permettre ça. Si tu te loupes, s'il y a un problème, tu passes un petit peu pour un idiot aux yeux de tout le monde. Mais là, il l'a fait. Non, mais c'est-à-dire que là encore, je me suis dit, casse les codes, c'est pas possible.
Non, mais voilà. C'est ça qui est
exactement. Il veut montrer qu'il est un peu, il est à part. Voilà, ouais. Et je trouve que j'ai aimé son comportement là pour ça. C'est-à-dire qu'il a aussi fait le show. C'est son tempérament. On le retrouve, c'est le meilleur Verstappen qu'on retrouve là, offensif. Je l'aime pas quand il est dans ses phases défensives. C'est plus Russell qui l'était par rapport à lui et par rapport à Pérez. Mais globalement, c'est sans faute.
Exactement. Il va arriver à Monaco avec un capital confiance absolument énorme. Et en tête du championnat, ce qui ne lui était pas arrivé depuis le début de la saison, hein, puisque depuis le début, c'était Charles Leclerc qui était devant. Ça aussi, on sait que le garçon a confiance en lui, qu'il a une haute estime de lui-même, ce qui est le cas de tous les Grands Prix de Formule 1, sinon on n'arrive pas
à ce
stade. De pilote de Formule 1. Mais là, quand même, il y a tous les ingrédients pour qu'il nous fasse un show total dans les rues de Monaco.
Et puis on passe à la suivante, c'est-à-dire que lui, ça l'intéresse pas tellement d'être en tête du championnat. Bien sûr, c'est gratifiant parce que ça montre quelque chose. Lui, il dit juste, je veux l'être au dernier Grand Prix, c'est ça qui compte pour lui. Mais ça, là, sur cette tendance, je ne sais pas ce que ça donnera, quel bilan on fera dans 3-4 Grands Prix, ça risque d'être sévère. Donc, il faut se reprendre, oui, c'est clair. Verstappen, oui, à Monaco, il a tout pour... Alors, même si, on verra ce que ça donne, mais la Red Bull est quand même très, très pointue. Et c'est peut-être pas le circuit idéal pour la Red Bull.
Non, c'est voilà. Même peut-être même le terrain le plus difficile.
Le plus risqué.
Mais on a envie de dire, et on le voit hein, d'ailleurs, c'est compliqué. C'est compliqué. Le vendredi, c'est très souvent compliqué pour Red Bull. Le samedi, ça peaufine encore. Et à chaque fois, il retombe. Ouais. Là, sur les trois derniers Grands Prix, quand même, il a été assez exceptionnel. Et on a envie de dire, justement, vu que Monaco, c'est pas le terrain de sa voiture, eh ben, c'est peut-être là qu'il va mettre un point d'honneur à dire, eh ben, les gars, vous allez voir, là, je vais vous mettre la pilule.
Ouais, pas le terrain de sa voiture qui est pointu, qui a une fenêtre d'exploitation des pneus qui est quand même assez étroite. Et puis là, à Monaco aussi, Red Bull, Ferrari vont découvrir un circuit avec une voiture assez longue par rapport aux empattements qu'on a cette année. Donc, ça va être un challenge un petit peu différent. Et chez Mercedes, on connaît un petit peu plus ça, puisque la voiture est un petit peu plus longue que les autres ces dernières années. Donc, s'il passe avec succès l'examen de Monaco, je ne vois pas ce qui peut l'arrêter.
Bon, exactement. Bah, ça sera, en tout cas, ça sera un enjeu très, très important pour cette septième épreuve de la saison. On va évoquer maintenant le cas de Ferrari. Alors, on ne va pas parler d'invasion de sauterelles, de grêle ou je ne sais quoi encore. Hein, c'est pour justifier la référence biblique aux 10 plaies d'Égypte. Mais il faut bien reconnaître que ce Grand Prix d'Espagne marque un coup d'arrêt pour Ferrari qui a subi donc deux plaies d'Espagne pour Charles Leclerc qui perd sa place de leader au classement des pilotes qu'il occupait depuis le début de la saison. Et Ferrari perd également la première place au classement des constructeurs. La faute à un Carlos Sainz qui a encore fait une boulette en sortant de la piste au virage numéro 4. On va parler de cette première plaie d'Espagne. Alors là, la plaie béante, hein, vraiment ce zéro pointé pour Charles Leclerc qui n'est déjà pas une bonne opération en mathématiques puisqu'il perd la première place du championnat. Mais le bilan, Stéphane, en fait, il est bien plus lourd que ces 25 points perdus. C'est vraiment cruel ce qui lui est arrivé. Alors, à Charles Leclerc.
Ouais, tu as bien employé le mot cruel. C'est exactement celui auquel je pensais parce qu'il a dit ça fait mal, tout simplement. Et je rappelle une chose, il abandonne en tête.
Ouais.
Quand Verstappen a été contraint deux fois à l'abandon, il était deuxième. Potentiellement, il perd 36 points. Là, Leclerc, avec la victoire et peut-être le point du meilleur tour en course, il perd 26 points. Ça veut dire quand même que sur l'ensemble de ces deux abandons, Verstappen perd 36 points, Leclerc 26, à peu près. Hein. Ça veut dire que le delta n'est pas si énorme que ça. On parle souvent de deux abandons pour Verstappen contre un seul à Leclerc. Mais quand on regarde dans les détails, celui de Leclerc, il fait très très mal, surtout qu'ils avaient tout bien fait.
Oui.
Leclerc, il est
était
le plus rapide. Essai libre
1,
2 et 3. Il a 3 dixièmes d'avance sur Verstappen le vendredi. Il est plus rapide aussi en Q1. Et en Q2, qu'est-ce qu'il fait? Il passe en Q3, il passe le cut des pneus usés.
Il économise un train de pneus.
Voilà, tout à fait. À fructifier ensuite au départ de la course. Et puis en Q3, il fait la qualif. Et surtout, c'est que le samedi matin, il se dit, est-ce que je ne suis pas trop beau? Il modifie le setup de sa voiture pour l'accorder un petit peu plus à la course, pour faire un mix entre rapidité sur un tour et puis tenue des pneus sur le long relais. On a vu que ça a payé. Et ça aussi, c'est pareil, c'est un enseignement de sa déconvenue d'Imola lors de la course sprint où il s'était fait rattraper par Verstappen. Donc, il intègre tout ça. On voit qu'il est en mode championnat, clairement.
Exactement.
Et tout ça fait que, oui, il était dominant. Et il a dit, sans cette panne, les Red Bull ne m'auraient jamais revu. Je le crois sur parole, franchement, parce qu'il avait 13 secondes d'avance sur Russell, qui bloquait les Red Bull. Tout était sous contrôle. Donc, ça fait très mal. On en serait peut-être à une autre lecture s'il n'y avait pas eu cette casse, mais malheureusement,
elle a été
rattrapée par la réalité.
Elle est là. Alors, il y a les 25 points de perdu qui font mal, mais il y a un autre problème qui vient s'ajouter à tout ça, Stéphane. C'est que on a perdu 25 points plus plus un turbo.
Oui.
Et ce qu'on appelle un MGUH, autrement dit le système qui récupère l'énergie issue de
stockée dans les batteries.
Exactement. Donc, et ça, ce sont des éléments qui sont contingentés pour l'ensemble d'une saison. On peut pas en sortir 50. On fait un petit point là-dessus parce que ça, c'est vraiment j'ai envie de dire, peut-être que c'est même plus problématique que les 25 points de perdu. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
Ah mais si, oui, tout à fait. Mais problématique, pourquoi Gilles? Parce que là, il va le payer cash. Son abandon, c'est Turbo et MGUH. Sur les deux abandons de Verstappen, c'est la pompe à essence, je crois, et le système d'alimentation en essence.
C'est-à-dire des pièces qui ne sont pas contingentées. On peut en utiliser 50 dans la saison, il n'y a pas de problème.
Ces pièces-là, ces périphériques, ces accessoires qui sont très très importants, qui font partie du système hybride, ils sont en quantité limitée dans la saison. Et c'est ça le souci. Et Leclerc, on regarde un petit peu, il en était à son deuxième en fait groupe
motopropulseur,
voilà, qui avait été installé, c'était à Miami. Donc ils avaient installé les moteurs numéro 2 et là en fait il a cassé son deuxième turbo, son deuxième MGUH. Ça veut dire qu'ils vont normalement il va rouler avec ses troisièmes éléments à Monaco et là il sera déjà au quota annuel.
C'est ça, on a 3 MGUH et 3 turbos à utiliser. Utilisable pour l'ensemble d'une saison en Formule 1.
Voilà, et on a mis des quotas voilà, sur ce.
Donc il pourra réutiliser évidemment l'ensemble qui avait déjà fait les premiers Grands Prix de la saison.
Oui,
on peut les remettre dans
ils ont fait 4 Grands Prix.
Voilà,
donc
ça va.
Potentiellement c'est réutilisable, mais c'est pas à l'infini de toute façon. Et avec 22 Grands Prix, il n'y a pas d'histoire. Il va falloir qu'ils montent ces éléments numéro 4. Sur ces pièces-là, turbo et MGUH, à un moment de la saison.
Sauf que cet éventuel quatrième turbo et cet éventuel quatrième MGUH, ça entraîne des pénalités, Stéphane.
Au premier emplacement hors quota, c'est 10 places de pénalité et ensuite, c'est 5 places. Donc, ça se paye assez vite, très très cher. Et quand on change, quand on a au moins 15 places de pénalité, on est relégué directement en fond de grille. Autant changer tout le groupe propulseur.
C'est ça.
Ouais. Donc, c'est, je pense, ce qui va arriver d'ici la fin de la saison. Et pour l'instant, chez Red Bull, on joue sur du velours.
C'est ça qui est assez impressionnant. C'est qu'on a parlé des problèmes de fiabilité. Ouais. On s'en souvient, Stéphane, notamment avant Imola, en disant la problématique chez Red Bull, c'est la fiabilité. Oui, faut quand même reconnaître qu'on s'est un petit peu trompé parce qu'en fait, c'est des périphériques qui cassaient chez...
Quand on dit fiabilité, c'est-à-dire que la voiture ne va pas à l'arrivée, mais ils ne le payent pas d'un point de vue comptable sur ces pièces-là qui sont limitées par la FIA. Alors, Verstappen, il a pour l'instant tous ses premiers éléments, V6, turbo, MGUH, MGUK, batterie aussi. Il faut faire très attention à ça. C'est des éléments qui ont longtemps posé des problèmes, beaucoup moins maintenant. Et... les problèmes ne tombent pas sur lui parce que si je regarde bien, chez Red Bull, Perez a déjà utilisé son deuxième MGUH et son deuxième turbo.
Turbo, mais il est toujours sur son premier moteur.
Oui, tout à fait. Mais ça veut dire que lui, il est déjà engagé dans un système. Il est menacé par les pénalités.
Bon, lui, c'est un problème de DRS qu'il a.
Voilà, tout à fait. Alors, chez Ferrari, on parle de ces problèmes de fiabilité. On a senti que c'était assez grave parce que Mattia Binotto, dès le dimanche soir, a dit que c'est un grave problème.
Oui. Bah, on l'a entendu, de toute façon.
Parfois, on dit, c'est une pièce à 10 euros qui a cassé. Et, ça nous coûte très, très cher, mais c'est au-delà. Et il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien.
De toute façon, au bruit, c'est sûr que ça concernait le turbo.
Ils n'ont pas demandé à Leclerc d'arrêter tout de suite la voiture en piste, donc ils ont peut-être eu un doute là-dessus. Et ce qu'on affirme chez Ferrari après l'ouverture de ce moteur, c'est que ça n'est pas un défaut de conception, donc ça au moins ça
rassure pour les deux derniers,
ça fait pas courir le risque pour la suite, et ça n'est pas un problème de fiabilité. Alors est-ce que c'est la qualité du matériau, la fabrication, alors qu'est-ce que c'est, est-ce que ce sont les conditions d'utilisation, est-ce qu'il y a quelque chose qui a surchauffé, est-ce qu'il y a un autre élément périphérique qui a déréglé, je dirais, ces éléments-là qui ont fait qu'on sait que ça peut aller très très vite. À voir, mais il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux derrière tout ça. Ferrari veut ne pas se montrer inquiet, mais n'empêche, moi je ne sais pas ce qui va se passer.
Et grosse problématique. Honnêtement, les 25 points perdus.
Les accessoires, ils vont mettre à. Voilà.
Les 25 points perdus, c'est peut-être pas le plus gros souci de ce Grand Prix d'Espagne pour Charles Leclerc. Alors, on a évoqué le Monégasque. On va parler maintenant de celui qui joue à domicile, Carlos Sainz. Alors, il y a une information qui est quand même passée sous les radars ce week-end, c'est que Carlos Sainz, pour la première fois de la saison, il a été plus rapide que Verstappen. Verstappen est sorti dans le virage 4 au 9e tour. Et Sainz,
au 7e tour. Oui, et, au deuxième tour.
Ouais, il a, bah, Sainz, il avait deux tours d'avance. Il était déjà passé jalonné le bac à gravier du virage 4, avec deux tours d'avance par rapport au Néerlandais. Bon, c'est un peu, je chambre un petit peu. C'est un grand prix raté, par l'Espagnol sur ses terres. Et ça, c'est la deuxième plaie d'Espagne qu'on voulait évoquer. Carlos Sainz, qui est troisième sur la grille, qui a pris quand même 4 dixièmes, hein, dans la vue, en qualification par son coéquipier en Q3. Qui manque son départ, qui est cinquième à la fin du premier tour, donc qui fait cette sortie de piste au septième tour, il retombe à la septième place, et il remonte finalement quatrième, parce que abandon de son coéquipier, et Hamilton lève le pied dans les derniers tours à cause d'un problème de surchauffe moteur, et c'est ce qui lui permet de passer à la quatrième place. En gros, il devait faire 6 chez les gros, 6 sur 6, c'est quand même pas...
Ouais, Mattia Binotto a dit que ça n'est pas un bon résultat. Non. Donc, on savait que pour Leclerc, c'était réglé, mais quand il dit que ça n'est pas un bon résultat, c'est la quatrième place de Sainz, qui a pris en fait des pneus neufs pour passer le cut de Q2 en Q3, ce qu'on lui a peut-être proposé, mais en fait, il n'en est pas capable. Et Binotto, le directeur d'équipe qui était en fait avant le directeur technique et qui a supervisé le design de cette voiture, il dit, Sainz, pour l'instant, il n'arrive pas, la voiture est trop... Et un équilibre trop précaire pour lui, il n'arrive pas à,
elle est pointue.
À la piloter.
Elle est comme la Red Bull en fait.
Tout à fait.
On a vraiment le sentiment que ce sont des lames de rasoir chez Auto.
Elle lui achète beaucoup plus, il a multiplié les têtes à queue depuis le début de saison. On a essayé d'injecter de la confiance en le re-signant assez vite, malgré une bourde monumentale à Melbourne. Et on ne voit toujours rien venir. Mmh. Là, ce week-end, il était attendu, il était chez lui. Donc ça crée quand même un boost de confiance. Eh bien, rien du tout. Donc mon sentiment, Gilles, franchement, c'est qu'il est moins bon que Bottas. Parce que Bottas, 3-4 fois dans la saison, il était quand même impressionnant.
Oui.
Hamilton était capable de le reconnaître. Et là, en fait, Sainz, il ne voit pas le jour, tout simplement. Et puis, il a été battu sur les 6 qualifs depuis le début de saison. Enfin, il n'y a pas de sortie du tunnel, là. Il n'y a pas de lumière.
Non, mais alors, en fait, je ne sais pas si... je reprends ta comparaison avec Bottas. Je ne sais pas si la différence entre les deux, ce n'est pas que Bottas savait qu'il était le numéro 2, finalement, et que dans le tréfonds de la psyché de Carlos Sainz, il veut essayer de prouver qu'il n'est pas le numéro 2. Et que pour l'instant, il n'y arrive pas parce que Charles Leclerc, il arrive à tirer vraiment la quintessence de cette voiture, comme Verstappen arrive à le faire, lui, avec la Red Bull. Et que quand on est vraiment à la limite comme ça, alors, je ne sais pas, ils ont parlé de Bourrasque aussi, ils ont parlé de rafale de vent aussi chez Ferrari, autant que chez Red Bull.
Oui, il y avait des équilibres à la voiture, c'est peut-être possible, mais en tous les cas, il arrive moins. Donc, c'est quand même un problème. Il est re-signé pour 2 ans, quand même. Mm-hmm. Je crois qu'ils ont fait un peu vite.
Écoute, on va voir. Hein. Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas régler le problème de confiance, hein, de Carlos Sainz dans cette voiture. Avant d'aller à Monaco, quand on manque un peu de confiance. Bon, il a quand même fait une belle remontée, mais les dégâts alors, en termes de confiance sont là. Et les dégâts, les points perdus en termes de... je voulais évoquer ça. Les points perdus au classement des constructeurs. Ils se retrouvent là aujourd'hui parce que Ferrari n'est plus en tête au classement des constructeurs. Et puis, encore une fois, il est troisième sur la grille. Donc, quelque part, stratégiquement, Ferrari peut prendre en étau Max Verstappen. Sauf qu'il perd tout de suite de place. Ouais, il se retrouve cinquième.
Comme à Miami.
Et que du coup, dans la stratégie, il ne peut plus jouer, mettre la pression sur Verstappen. Ouais. Il n'est pas utile à son équipe.
On avait vu à Miami qu'il n'était pas la priorité chez Ferrari parce que je crois que c'est là que Leclerc l'avait un petit peu bloqué. Là, il perd 2 places tout de suite, donc il y a un souci. Il démarre même moins bien. Donc, j'ai l'impression qu'il fait tout un petit peu moins bien.
Ouais. Ça doit être terrible comme situation.
Et puis, la différence, vraiment, c'est que la voiture a tendance à être un petit peu survireuse, c'est-à-dire que un petit manque de grippe sur l'arrière, dont s'accommode très très bien Leclerc, et lui pas du tout. Mmh. Même si les deux, ce que je trouve un petit peu bizarre, disent qu'ils réclament les mêmes choses sur la voiture, les mêmes réglages, bon, il faudrait peut-être partir dans une autre direction, et Mattia Binotto a dit c'est à nous de l'aider. Parce que lui, je pense qu'il est dans une impasse, il n'est pas capable de trouver la solution tout seul.
Ça sera un des gros enjeux si Ferrari veut relever la tête par rapport à Red Bull. Hein. On faisait le point tout à l'heure. On a quand même subi un 140 à 65 sur les 3 derniers Grands Prix pour Ferrari. Si Ferrari veut relever la tête, ils vont avoir besoin de Carlos Sainz. Et pour l'instant, l'Espagnol, pour le moins qu'on puisse dire, est en difficulté avant de prendre la direction de Monaco. Le troisième acte dans les fous du volant aujourd'hui, post-Grand Prix d'Espagne, on va parler de Mercedes et de George Russell qui a montré les crocs pendant cette sixième épreuve de la saison. Pour la première fois cette année, une Mercedes a mené un Grand Prix et on le doit à George Russell qui a offert une résistance héroïque au Red Bull avant de céder logiquement. Il finit troisième, monte sur le podium pour la deuxième fois cette saison. Suite à l'abandon de Charles Leclerc, il est désormais le seul pilote à avoir inscrit des points lors de chaque épreuve cette saison. On a le sentiment, Stéphane, qu'en fait, chez Mercedes, celui qui montre le cap, eh ben maintenant, c'est George Russell. Il est devenu le moteur de Mercedes.
Il a montré pendant tout le week-end qu'il était le patron et il a eu son premier grand fait de gloire quand même, cette résistance et ce dédoublement par rapport à Verstappen, je crois que c'était au 24e tour, c'était époustouflant. Je pense même que Verstappen n'y
s'attendait
pas du tout.
Ouais, clairement. Voilà,
parce que Verstappen s'est positionné vraiment à l'intérieur, il a plongé, donc il a trop cassé le virage. Et Russell a eu l'intelligence de garder
relâcher,
sa ligne,
d'enrouler.
De relâcher et, voilà, et de garder ça.
Et d'ailleurs, dans la cool room, Verstappen lui a dit, cool move. C'était un joli mouvement.
Je pense que chaque pilote attend un moment, une petite consécration comme ça, c'est-à-dire un grand duel par rapport à un seigneur, un pilote établi. Et là, il l'a eu. Et pour moi, ça a changé tout, quoi. On l'avait vu lors de sa première participation chez Mercedes. Il s'était battu devant avec Bottas, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, il faut s'attaquer au gros. Il faut à Hamilton, à Verstappen, à Leclerc pour gagner ses lettres de noblesse. Et surtout, franchement, Gilles, j'ai trouvé que Russell, pendant 3 jours, a parlé comme un patron, en ignorant soigneusement Hamilton. Moi, je l'ai ressenti un petit peu, comme on dit, en creux, c'est-à-dire que c'était des choses qui étaient en filigrane entre les lignes, mais c'était clair. Après sa qualif, lui, il dit « moi, je vais me battre avec les Ferrari ». Et il ne s'occupe pas de savoir ce que va faire Hamilton. Et Hamilton dit « moi, je vais me battre pour la sixième place ». C'était assez réaliste, même si on pensait qu'il pouvait aller chatouiller peut-être Carlos Sainz ou Pérez. Mais lui, il dit « non, je vais m'attaquer carrément à l'homme de la pole position,
je suis d'accord.
À la deuxième Ferrari ».
C'est pour ça que je dis que
c'est assez incroyable.
C'est pour ça que je pose cette question. Est-ce qu'il n'est pas devenu le moteur chez Mercedes ? Et j'emploie cette image du moteur parce que, au début de ce Grand Prix, Lewis Hamilton, pendant cette épreuve, il a vraiment montré deux visages très différents, hein, le septuple champion du monde. On resitue un petit peu, premier tour, contact avec Kevin Magnussen, crevaison à la roue avant gauche pour Lewis Hamilton qui rentre au stand. Il ressort à quasiment une minute de la première place et il dit dans le tour qui suit à son équipe, écoutez les gars, je pense que je serai vous. J'abandonnerai et comme ça on économise le moteur. Réaction immédiate de Peter Bonington, son ingénieur de course. Lewis, on pense que tu peux marquer des points. On lui parle d'abord de la 8e place.
Ouais.
Au fait, ça sera beaucoup mieux parce que, et c'est là qu'il y a le deuxième visage de Lewis Hamilton. Il rushing pas. Il dit voilà, je crois que ça serait bien d'abandonner. On se dit c'est bizarre quand même comme attitude. Ouais. Alors par contre, on lui dit non, tu peux marquer des points. Et là, c'est parti. Il se met en mode Hamilton. Et c'est reparti. Et il a été irrésistible. Il a fait du Hamilton. Il était magnifique. Il remonte jusqu'à la 4e place, ce qui est quand même exceptionnel. Il doit céder finalement cette 4e place parce que dans les derniers tours, à cause du problème de surchauffe, on lui demande en fait de faire du lift dans les lignes droites, donc de lever le pied de l'accélérateur et c'est très impressionnant. J'ai entendu les échanges radio entre Peter Bonington et Lewis Hamilton dans les derniers tours. Peter Bonington, donne la distance, en fait, l'endroit où Lewis Hamilton doit lever le pied. Il lui dit, par exemple, virage 1, tu lèves à 250 mètres. Virage 10, tu lèves à 150 mètres. Ça fait un nombre d'informations colossales à retenir pour un pilote, mais ça aide, ça a aidé, en fait, à maintenir la température du moteur dans une zone acceptable. Il a quand même sacrifié sa 4e place au bénéfice de Carlos Sainz. Mais à l'arrivée, c'est plus le même, Lewis Hamilton. Il a été chasseur pendant ce Grand Prix et ça l'a relancé. J'ai le sentiment qu'il est relancé.
Oui, certainement, il avait besoin de ça. Toto Wolff a dit, après ce coup de mou, donc les gars, il faut abandonner. Alors, ce qui montre quand même que dans toutes les équipes, la gestion du parc moteur, des quotas, est une préoccupation.
Omniprésente.
Voilà, c'est ça. Et il lui a dit, ça lui a redonné le moral et nous avec.
Mmh. Oui, clairement.
Ça, c'est important parce que l'équipe était portée par Hamilton, est portée par Hamilton depuis de nombreuses années. Et là, ça leur a fait du bien aussi. On avait entendu une seule fois Lewis Hamilton suggérer à son équipe d'abandonner. Vraiment, c'était à Hockenheim en 2019, il pilotait, il était malade, il n'était pas bien de chez pas bien, sur une piste qui était mouillée, il sort de la piste, il dit, bon voilà, il se voit ne pas terminer dans les points, il dit bon les gars, je rentre, c'est fini.
Il gagne, hein ?
Il finit 9e, ah il ouais. sauve 2 points,
ah, je me trompe
donc pas. Il le persuade de continuer, mais là c'était effectivement une capitulation un petit peu bizarre. Peut-être parce que c'était aussi l'écœurement en disant c'est encore le jour de Russell ouais. et moi je préférais en rester là pour bien montrer la différence en fait. Mais Gilles, surtout, tu as remarqué que on nous a expliqué sur cette course que.
Je sais où tu veux en venir.
le standard c'était 3 arrêts.
Ouais.
Hamilton il a fait 3 arrêts, mais réellement il n'en a fait que 2.
Mmh, oui.
Parce qu'il rentre au deuxième tour et après il fait arrêt au 24e tour, arrêt au 48e. Et il fait 3 relais.
Et on nous avait vraiment. Dit que ça sera un Grand Prix où il faudrait économiser les pneus. Or ouais. là, Hamilton, il a fait tout sauf économiser les pneus. Ouais. Il est parti à l'abordage, mais comme on l'aime, ouais. quoi, vraiment.
Sur un arrêt de moins, spectaculaire.
Et ça peut être intéressant pour Mercedes, mine de rien, le scénario de ce Grand Prix. Parce qu'on a eu donc finalement une Mercedes, celle de Russell, qui a fait une course, on va dire, classique, en gestion des pneumatiques, en attaquant, en défendant. Et puis une autre. Sabre au clair avec Hamilton. Il va y avoir des datas très très intéressantes ouais. à comparer entre les deux autos. C'était pas prévu comme ça, mais je pense que ça va donner des datas à l'équipe de Andrew Chauvelin qui vont être très très intéressantes à décortiquer parce que ce qu'on a vu aussi, Stéphane, c'est que cette Mercedes, eh ben, elle a beaucoup progressé parce que après l'arrivée, Toto Wolff a dit à Lewis Hamilton, tu aurais pu gagner ce Grand Prix. Il a fait un calcul simple, hein, quand Lewis Hamilton revient en piste après sa crevaison, il est à 55 secondes du leader et il termine à
54 secondes.
Voilà. Sachant que dans les derniers tours, il a relâché. Donc, il a relâché parce qu'il n'avait que 50% d'accélérateur.
Et problème de conso.
Oui, et problème de...
Qui est assez courant à mon niveau.
Voilà. Et il y avait ce problème de surchauffe moteur aussi qui les a obligés à faire du
à
faire du lift. Peu, ouais. Et Toto Wolff a dit il aurait pu le gagner.
Alors, oui.
À la marge,
on compte
oui.
pas non plus les 13 secondes que Charles Leclerc avait d'avance sur le deuxième au moment de son abandon.
En tout cas, il fait jeu égal.
Ah non, mais complètement. Même Toto Wolff a poussé un petit peu le bouchon. Je pense que là, c'était la deuxième couche
oui,
de motivation.
Oui, mais il a raison.
On avait la meilleure voiture donc, sur cette course et on a une voiture pour viser le titre. Alors, carrément.
Mais c'est ça.
Bon.
Mais c'est
alors,
un super manager.
Russell, je crois, à
Toto Wolff, c'est un super manager.
Russell, 36 points de retard sur Verstappen. Alors, pourquoi pas. Il reste combien Il reste 16
Grands Prix.
Voilà. Donc, on en reparlera peut-être encore en fin de saison en disant on n'y croyait pas du tout. Tu te souviens, Gilles,
on en rigolait.
Mais bien sûr. Donc, même si Hamilton est beaucoup plus loin, donc là, on peut moins y croire quand même, c'est raisonnablement, mais pour Russell encore. Mais c'est pas grave, effectivement, ils ont pris plein de choses là maintenant, ils ont plein de data à décortiquer. Surtout, ce qui m'a plu, c'est qu'ils sont restés sur ce concept de ponton zéro.
Oui.
En disant, nous, on continue.
On y croit, voilà. On y croit.
Parce que l'enjeu aussi, c'était... Quel design pour la voiture de 2023 ? Est-ce qu'on change tout ou est-ce qu'on garde ce qu'on a et on l'améliore ?
Exactement.
Eh bien, on sait ce qu'ils vont faire maintenant.
Et ils vont quand
ils ont du développement. Et on en parlait aussi, Gilles, ici. Ce fameux marsouinage poussait à relever la voiture, ne lui donnait pas une bonne traction en sortie de virage. Donc, au bout de la ligne droite suivante,
elle était
t'as pas de Vmax, donc t'es moins rapide. Et tu as l'impression d'avoir un moteur qui est dégonflé. Et là, maintenant, Mercedes aussi retrouve son moteur comme par magie. Mais c'était le meilleur moteur jusqu'à présent.
On a entendu ça.
Qu'il est redevenu le meilleur moteur.
On a entendu ça, qu'il y avait des progrès moteurs. Non, ils n'ont pas touché au moteur.
Ouais.
Lewis Hamilton et George Russell ont le même moteur depuis le début de la saison. Ils n'ont pas changé une seule fois de moteur. Simplement, ils ont réussi, je parlais d'Andrew Chauvelin, ils ont réussi à rebaisser, il en a parlé, un tout petit peu la hauteur de caisse de la voiture, vous gagnez de l'effet de sol, gagnez de la motricité.
Alors, on parle là de millimètres.
Ah
vraiment.
Oui, bien sûr.
Je ne sais pas
oui.
si c'est 2 ou 3 ou 4, mais déjà, ça, c'est des cotes qui sont énormes sur des voitures comme ça, qui sont assez sensibles. Ça ne se joue pas en centimètres. Alors, sur la gestion Russell-Hamilton, tu as remarqué quand même qu'à l'arrivée, Russell, il parle, il fait du Hamilton. Il dit, je remercie l'équipe qui a super bossé. On croit entendre.
Non, non, mais ça y est.
On se dit, mais j'ai déjà entendu ça 100 fois. Ah ouais. 103 fois, ah ouais, exactement. C'est ça. Chez McLaren ou chez Mercedes.
Il manquait un Jella Cullen à côté, c'était bon.
Et il ne dit pas, il y a eu une belle remontée de Lewis qui a prouvé qu'on avait la meilleure voiture. Il ignore complètement. Ouais. Et chez Mercedes, on a parlé Hamilton comme d'un octuple champion du monde qui sommeillait. C'est un petit peu ça. Et on lui a dit, tu pouvais gagner, tu avais la meilleure voiture. On peut viser le championnat, donc s'il l'a pris pour lui, bon, bah, tant mieux. Mais tu remarqueras quand même que, en fait, Hamilton, il est obsédé, mais il ne veut pas le dire, par Russell. À Miami, on lui propose de s'arrêter en course, une fois de plus. Il dit, mais ça va me mettre où ? Il comprend en fait que ça va le mettre derrière Russell. Il dit, pas question. Et puis...
Ce que tu es en train de nous dire, Stéphane, c'est que maintenant que Mercedes commence à comprendre la voiture, le problème, c'est les pilotes.
Voilà, c'est ça. Il va falloir parler à Hamilton comme encore de la star qu'il était et lui faire comprendre qu'on a toute confiance dans le fait qu'il peut reprendre le lead. Parce que samedi matin, il y a Peter Bonington qui lui envoie les deltas, c'est-à-dire le retard qu'il a secteur 1, secteur 2, secteur 3 sur le chrono de référence. Et lui, il appelle en disant, mais c'est par rapport à qui ? Et Bonington dit, c'est par rapport à Russell. Il dit, non, mais moi, je ne m'occupe pas de George. Moi. Je veux toujours les meilleurs chronos par rapport aux pilotes de tête. Donc, ça veut dire qu'il ne veut pas entendre. Il en fait un petit peu un complexe. Quoi. Clairement,
non, mais,
il ne faut
oui,
pas lui parler de ça.
D'un autre côté, c'est logique. Quand Exactement. Tu t'appelles Hamilton, tu regardes le premier, tu ne regardes pas Russell.
Le danger, je pense, chez Mercedes, c'est de faire les bilans pour dire, depuis le début de la saison, même là, ça fait 5 fois que Russell est le meilleur pilote à l'arrivée chez Mercedes. Qui fait 3-3 en qualif, donc il est dans le jeu par rapport à Hamilton. Donc, il est pilote leader. Ça, il ne faut surtout pas prononcer ces mots-là. Il faut préserver, la susceptibilité, mais en tous les cas, la motivation d'Hamilton. Et c'est ce qu'ils ont fait avec cette remontée.
Oui, c'est ça. Toto Wolff, là, et on va terminer là-dessus. Techniquement, on a avancé clairement. Andrew Chauvelin, qui est plutôt un taiseux en règle générale, disait après le Grand Prix que c'était très, très encourageant pour la suite. Et j'ai noté cette phrase, les pôles et les victoires sont plus à notre portée qu'au début de la saison. La voiture, on la voit, elle tourne plus court, elle rebondit moins. Il y a ce côté technique, ça c'est très bien. Et il y a le côté maintenant humain sur lequel Toto Wolff a sauté, parce que ce Grand Prix, ça donne un Grand Prix de référence en fait à son équipe, aux gens qui travaillent à l'usine. Il va avoir un autre problème maintenant à gérer, c'est les relations entre les deux. C'est pour ça que c'est un excellent manager qui doit gagner beaucoup d'argent et lui souhaite beaucoup de courage, parce que ça sera tout sauf simple. Mais je crois que c'est plutôt, voilà, il arrive au moment où il va avoir un problème qu'il aime bien gérer. C'est-à-dire, bon, maintenant, on va être de nouveau dans le jeu, ce qui n'a pas été le cas depuis le début de la saison. Et nous, on va se régaler, parce que si on a vraiment cette troisième force qui, enfin, arrive, alors là, les prochains Grands Prix vont être exceptionnels.
Je ne sais pas s'ils seront capables de viser une pole position chez Mercedes, mais je pense qu'ils gagneront un Grand Prix, même peut-être plusieurs.
Eh ben on va voir ça. Ça peut arriver dès le week-end prochain, puisque ça y est, on enchaîne. Grand Prix de Monaco avec la première séance d'essais libres qui aura lieu vendredi. Attention, hein, maintenant c'est fini. Hein, les premiers essais le jeudi à Monaco. On est revenu sur un schéma classique, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche. Premiers essais libres vendredi à 14h. La qualif samedi à 16h et le Grand Prix dimanche à 15h. Autre information importante, Stéphane, qu'on va donner à ceux qui suivent notre podcast, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, eh bien, vous aurez les fous du volant disponibles à partir du lundi. Donc, on gagne une journée, on sera un peu plus tôt avec vous dans les fous du volant.
Encore plus chaud juste après la course. pour coller au plus près de
à l'actualité. Des événements. Exactement. Je crois qu'on a tout dit, Stéphane. Donc
t'as pas vu qu'il y avait un risque de pluie à Monaco sur
Oh si, dimanche, hein, dimanche on annonce de la pluie.
Bon, alors après bon, la météo on sait ce que c'est, c'était quoi? C'était une grenouille que t'avais qui c'était vraiment la météo.
C'est un site internet norvégien qui Ou alors je comprends pas totalement le norvégien.
Non, mais la pluie à Monaco dimanche, on prend tous hein, clairement.
Ah, je sais pas. Ouais, enfin, je sais pas. On verra. De toute façon, on prendra ce qu'il y aura. D'ici là, ce podcast, il est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane,
on a tout dit.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
On coupe le comptage.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.